Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, l'humanité trouvera-t-elle encore de quoi se nourrir dans quelques dizaines d'années ? Cette question est posée en introduction dans le très sérieux rapport de l'Académie des sciences intitulé « Démographie, climat et alimentation mondiale » sorti en février 2011 aux éditions EDP Sciences. Voici quelques données qui seront le point de départ de cette émission. Nous sommes actuellement un peu moins de 7 milliards d'êtres humains sur Terre et nous serons certainement 9,2 milliards en 2050. Actuellement, plus d'un milliard de personnes sont sous-alimentées, alors combien seront-elles en 2050 ? Car de nouvelles inquiétudes se font jour, les surfaces cultivables ne sont plus vraiment extensibles, à moins de raser les forêts, et la productivité des sols est à son maximum, au-delà, on risque d'endommager les terres de manière irréversible. Mais comme nous le verrons dans cette émission, les problèmes rencontrés ne sont pas seulement scientifiques ou technologiques, ils sont aussi économiques et politiques. Actuellement, nous avons les ressources pour nourrir les presque 7 milliards d'êtres humains que nous sommes, mais nous n'y arrivons pas et nos invités nous diront pourquoi. Pour évoquer l'avenir de la population mondiale d'ici 2050, les enjeux cruciaux que sont la gestion de la démographie et sa répartition sur les territoires, une alimentation minimale pour tous, mais aussi l'économie et le commerce mondial qui influent sur le prix des matières premières, nous recevons deux des contributeurs à ce rapport, Michel Griffon, Henri Leridon, bonjour.
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 Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Pour vous présenter, Michel Griffon, vous êtes conseiller scientifique de l'Agence nationale de la recherche. Vous êtes à la fois ingénieur agronome et économiste. Vous êtes membre de l'Académie nationale d'agriculture. Henri Leridon, vous êtes directeur de recherche émérite à l'INED, Institut national d'études démographiques. Vous avez dirigé une unité mixte de recherche INSERM-INED en épidémiologie, démographie et sciences sociales. Vous êtes correspondant à l'Académie des sciences. La pression sur les besoins alimentaires est déjà palpable. Au début de l'année 2011, la spéculation sur le prix des matières premières et sur les ressources alimentaires comme le blé a suscité les inquiétudes. Et on se rappelle bien sûr de la crise alimentaire de 2008. À l'image de ces deux exemples, est-ce que ces crises vont devenir récurrentes et de plus en plus importantes, Henri Leridon ?
Alors d'abord, c'est un constat important en effet parce que depuis la rédaction de ce rapport, je réfléchissais aux facteurs de pessimisme aggravés qui sont apparus. Il y a celui-là, c'est-à-dire le fait qu'il y a déjà une nouvelle crise des prix agricoles. Tout récemment, les Nations Unies ont publié une nouvelle version de leur projection démographique. Ça date de quelques jours. Il n'y a pas de grand changement, sauf une augmentation de la population africaine envisagée en 2050. L'accroissement prévu était déjà de 1 milliard, on passera à 1,2 milliard. Et on y reviendra sûrement. L'Afrique est l'un des gros problèmes pour l'alimentation mondiale à l'horizon 2050. On a déjà des constats de sécheresse plus importants que ce qu'on attendait il y a un ou deux ans. On a eu un blocage des négociations internationales sur le climat et notamment pour les émissions de gaz à effet de serre. Un autre point que la FAO, d'ailleurs, nous soulevions dans le rapport, nous regrettions qu'elle ne se soit pas beaucoup intéressée aux pertes dans la production agricole et dans la consommation. Elle vient de produire des nouvelles données qui sont plutôt moins bonnes encore que ce que nous pensions. Donc, on a donc effectivement un faisceau de nouvelles données qui laisse penser que le chemin vers 2050 et vers une alimentation convenable de la population ne sera pas un chemin tranquille, et notamment à cause de crises dont Michel Griffon pourrait nous parler plus en détail, qui risquent malheureusement de se développer avec une fréquence encore plus importante.
Michel Griffon, alors, pour nous donner quelques détails sur ces crises à venir.
En fait, le raisonnement qu'on peut avoir, c'est qu'il y a une course de vitesse entre la courbe démographique et l'influence de cette courbe démographique sur les besoins alimentaires et la demande alimentaire, parce que si les pays émergents continuent à améliorer leur situation économique, ils voudront consommer plus de biens alimentaires, notamment de la viande qui sera produite à partir de végétaux, ce qui multiplie la demande en végétaux. Donc course de vitesse entre les besoins et la demande, d'une part, et puis avec, d'autre part, la courbe de l'offre et la courbe de la production. Or, il n'y a pas que des bonnes nouvelles du côté de la courbe de production, puisque, comme vous l'avez dit en introduction, nous allons, avec le temps, de plus en plus vers les limites de la planète, avec des risques de condamner une partie de la biodiversité, une utilisation encore plus poussée de l'eau, alors que l'eau tend à se raréfier sur beaucoup de régions. Donc, cette course de vitesse ferait qu'à certaines périodes, peut-être aurions-nous un petit excédent de production, se traduisant sur les marchés internationaux par des baisses de prix, puisque l'offre dépasserait la demande. Et puis, à l'inverse, peut-être très peu d'années après, l'inverse. Donc, une demande très importante se traduisant par des pénuries, et à ce moment-là, de la spéculation et des prix qui augmentent. Ce dont on est à peu près certain, c'est qu'on est rentré dans un cycle d'extrême variabilité des prix et donc de course de vitesse entre offre et demande.
Donc vous avez résumé en l'espace de quelques instants la totalité de l'émission, donc nous allons redévelopper toutes ces questions-là. Non, mais c'est très bien, comme ça on va pouvoir avancer sur les différents points que vous avez énoncés, sur cette question de l'offre et de la demande, et sur les limites de la planète. Auparavant, je me retourne vers vous, Henri Léridon, sur les questions démographiques, qui occupent quand même une bonne partie de ce rapport. Qu'il s'agisse des pays industrialisés ou des pays en voie de développement, on observe une densification urbaine qui pourrait accueillir jusqu'à 70% de la population et à l'inverse 30% en population rurale. Quelles seraient les conséquences sur le plan des infrastructures à l'échelle de tout un pays et au niveau de la question alimentaire? Quelles seraient les conséquences?
On est déjà à 50% aujourd'hui de population urbaine au plan mondial. Donc en effet, les projections pour 2050 sont de l'ordre de 70%. L'une des difficultés, c'est que l'évolution se fait de manière non programmée, si on peut dire, et non très bien coordonnée. Elle est spontanée et les populations vont de plus en plus vers des agglomérations, pas forcément parce qu'elles espèrent y trouver de l'emploi, etc., mais simplement parce qu'elles n'arrivent pas à survivre à l'endroit où elles se trouvent à l'origine. Donc c'est une forme d'urbanisation, pour qualifier un peu de sauvage, mais enfin le terme est péjoratif, et qui pose d'énormes problèmes, d'abord en termes de logement, d'infrastructures qui vont avec le logement, de conditions sanitaires, et évidemment d'alimentation. Alors le problème d'alimentation peut sembler parfois relativement plus facile à résoudre parce que, étant donné qu'on est dans des grandes villes qui sont souvent pas très loin des côtes, l'alimentation acquise à l'extérieur est plus facilement accessible aux personnes, plus directement accessible, alors que dans les zones rurales, les circuits sont beaucoup plus complexes. Mais ça donne une part de plus en plus importante au marché. Et on vient de dire que le risque, c'est que les tensions sur les marchés soient de plus en plus sérieuses à l'avenir et donc que les prix fluctuent de façon très considérable et ne soient plus à la portée du coup des personnes qui vivront dans ces villes. Donc, en effet, la conséquence sur le plan de l'organisation de l'alimentation sera forte.
Alors, restons sur cette question d'alimentation. Dans votre rapport démographie, climat et alimentation mondiale, donc vous relevez qu'actuellement 1 milliard de personnes sont sous-alimentées et que parallèlement, et c'est donc l'OMS qui le décrit comme étant une épidémie, il y a, on estime, 1 milliard 300 000 personnes qui sont en surpoids. Il y aurait donc plus de personnes en surpoids que de personnes sous-alimentées. C'est bien cela ? Henri Léridon.
Tout à fait. Bon, pour autant qu'on puisse se fier à des estimateurs mondiaux en la matière qui ne sont pas très faciles à construire, mais il y a un problème très sérieux. Ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas seulement donc, dans les pays développés que l'on constate ça, mais aussi dans les pays en développement. Et ceci vient de la transformation des régimes alimentaires qui est parfois très rapide dans ces pays. Donc, en effet, on va vers un problème très sérieux. Alors, dans les pays les plus avancés, on sait qu'on est déjà en surconsommation calorique, puisqu'on atteint des 3500 kilocalories par jour et par personne, ce qui est probablement assez nettement supérieur à l'optimum des nutritionnistes, même si les nutritionnistes ne sont pas absolument tous d'accord entre eux. Et notamment, on l'a déjà évoqué aussi, par la part d'alimentation carnée, qui pose des problèmes, on y reviendra plus en détail sans doute, en matière de production agricole, mais qui en plus n'est certainement pas optimale. On a dû passer aussi le seuil raisonnable, disons, dans la plupart des pays avancés. Donc dans ces pays-là, ce que nous souhaitons, et c'est en ligne avec d'autres rapports comme le rapport Agrimonde qui est paru avant le nôtre, c'est qu'on ait une réduction de la consommation totale calorique, mais aussi de la part de protéines animales dans les pays les plus avancés. Par contre, dans les pays en développement, il y a sans doute encore une progression possible.
Alors, je me tourne vers vous, Michel Griffon. Donc, Monsieur Léridon parle de cette possibilité peut-être de réduire la consommation de la viande, en fait, tout simplement. Quels seraient les autres éléments qui pourraient justement refaire basculer la balance pour que le nombre de calories consommées soit plus lissé entre les pays en voie de développement et les pays développés ?
Bien sûr, la réponse est simple, mais extrêmement difficile à mettre en œuvre. C'est d'accroître la production dans des proportions suffisantes. Et notamment la production végétale. Alors dans les productions végétales, il y a toute la base calorique, qui sont par exemple les céréales, les racines, les tubercules. Il y a bien sûr les protéines végétales, les protéines animales, et l'ensemble des légumes et des fruits. Alors, ce qui est important et qu'on dit assez peu dans les rapports, c'est que l'accroissement de la population urbaine va concentrer l'effort de l'agriculture dans des zones périurbaines. Donc, on a un peu tendance, nous autres agronomes en premier d'ailleurs, à considérer que l'agriculture authentique est celle qui est loin des villes, mais l'agriculture la plus productive est celle qui est proche des villes, parce que la ville induit un effort de rendement de productivité. C'est dans le périurbain que l'on utilise le plus d'eau, qu'on utilise le plus d'engrais et qu'on obtient les rendements les plus élevés. Donc, une des solutions va être de suivre ce mouvement et de faire en sorte qu'il y ait un accroissement de production significatif dans les zones périurbaines, au sens très large du mot périurbain.
Oui, vous en parlez pour les pays en voie de développement, mais pour les pays industrialisés, est-ce qu'on s'oriente vers une limitation des apports en viande, de limiter par exemple le gaspillage? On sait qu'actuellement, 30% de l'alimentation est jetée, en fait, elle n'est pas consommée. Quelles seraient justement les mesures à prendre dans les pays industrialisés, à contrario des pays en voie de développement?
Alors tout ça, bien sûr, repose sur l'évolution des comportements des consommateurs. Et les politiques publiques ont bien peu d'effet pour le moment sur les comportements des consommateurs. Parce qu'on touche en profondeur à la culture alimentaire de ces populations. Alors il y a des franges de population qui sont très conscientes du risque de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, à consommer des quantités trop importantes de viande. De viande qui, de plus, n'est généralement pas de la très bonne viande, puisque c'est de la viande de standard de consommation, faite avec beaucoup de produits tels que du maïs et du soja, alors que les bonnes viandes bovines sont des viandes à l'herbe. Donc il y a les populations qui cherchent le haut de gamme et qui améliorent la qualité nutritionnelle et en même temps que l'ensemble, qui recherchent l'ensemble des bonnes qualités de la viande. Mais d'ici à ce que ce comportement plus vertueux se diffuse dans l'ensemble de la société, c'est une vraie question à laquelle je pense que personne n'a pour le moment la réponse.
Alors entre les pouvoirs publics et le consommateur, il y a quand même des échelons intermédiaires qui sont la restauration, notamment la restauration collective, sur lesquels, là, on peut essayer de faire des efforts. On voit que dans les écoles, par exemple, le problème est déjà posé et qu'on constate qu'il y a des initiatives qui sont faites pour mieux équilibrer les repas. C'est pas, je ne pense pas qu'il soit une surconsommation de viande dans ce cas-là, mais en tout cas, il y a un problème d'équilibre global et d'induire en effet des habitudes, de bonnes habitudes alimentaires qui passent certainement en grande partie par l'école. De même, dans la restauration collective d'entreprises, on peut aussi essayer de faire en sorte que là, il y ait une incitation à moins consommer et notamment moins consommer de viande. Donc il y a quelques leviers possibles, mais il est vrai qu'on ne changera pas les comportements du jour au lendemain. Maintenant, on a aussi devant soi, on peut d'un côté être très pessimiste en se disant le tableau est sombre et l'horizon 2050 va être difficile à assurer, mais en même temps, on a quand même quelques dizaines d'années devant soi, c'est-à-dire que ces comportements, quand on raisonne à l'échelle de 30 ans, c'est une génération complètement. Donc, ce sont les comportements des enfants par rapport à ceux des parents. Et dans d'autres domaines, on voit qu'ils peuvent aussi changer. Mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut qu'il y ait de l'information et de l'éducation et de l'incitation probablement aussi. L'autre domaine encore, c'est la production d'aliments prêts à consommer, qui sont de plus en plus utilisés dans nos sociétés. Et où là aussi, il y a certainement des efforts à faire pour qu'ils proposent un équilibre nutritionnel le meilleur possible.
Je reste tournée vers vous, Henri Léridon, puisque dans les premières pages du rapport, il est écrit que techniquement, on pourrait nourrir ces 9,5 milliards d'habitants d'ici 2050. Donc on le voit de manière statistique. Pourtant, dans le groupe de lecture critique qui se trouve donc à la fin du rapport démographie, climat et alimentation mondiale, il y a une personne qui relève la chose suivante, c'est que ce sont des données macroéconomiques qui ne sont pas vraiment ancrées dans la réalité. Et parce que déplacer des millions de tonnes de nourriture pour nourrir plusieurs milliards de personnes se révélerait impossible.
Ouais. C'est quand même ancré dans la réalité, dans le sens que les projections qui sont faites reposent sur une étude région par région des possibilités d'augmentation éventuelle de la production ou des risques de diminution éventuellement. Donc les calculs reposent quand même sur des projections relativement réalistes. Alors après, ce qui est vrai, c'est que à l'horizon 2050, on voit qu'il y aura des déséquilibres régionaux très importants et que la seule façon donc de les combler, ce sera en effet de faire des transferts d'alimentation d'un continent pratiquement à un autre. Et on voit qu'on ne sait pas toujours le faire très bien et que surtout, ça introduit le grand problème du fonctionnement convenable des marchés internationaux et de la solvabilité des pays qui devront acheter, qui seront principalement en Afrique et en Asie.
Et on va y venir dans quelques instants après notre pause. À tout à l'heure.
1866 est une date clé dans la destinée de Bismarck. La Prusse devient l'Allemagne. Pour Canal Academy, Jean-Paul Bled, professeur à Paris 4 Sorbonne, spécialiste des mondes germaniques, auteur d'une biographie sur l'empereur, nous livre les moments phares de cette année dans l'émission « Un jour dans l'histoire ». Téléchargez-la sans plus tarder sur canalacademy.com.
Suite de notre émission en compagnie de Michel Griffon et Henri Léridon, avec qui nous évoquons le rapport démographie, climat et alimentation mondiale. Dans cette deuxième partie d'émission, j'aimerais qu'on s'intéresse plus particulièrement aux cultures et à la biodiversité. Que faut-il faire ? Michel Griffon, vous nous avez parlé de l'intensification des cultures. J'imagine que, notamment en France par exemple, on peut difficilement plus intensifier les cultures qu'elles ne le sont déjà. Non ? Il y a encore des choses à faire ?
L'essentiel du chemin a été fait, puisque historiquement, la France, comme l'Europe, s'est trouvée dans une situation de devoir nourrir une population abondante, avec des surfaces, somme toute, relativement limitées. Donc elle a fait ce qu'il fallait faire historiquement, c'est produire plus par hectare. Et elle l'a fait, avec, notamment dans les 50 dernières années, avec des techniques qui ont très bien fonctionné, mais qui malheureusement, par les excès de consommation d'engrais, de produits phytosanitaires, quelquefois les excès d'utilisation de l'eau, ont provoqué un certain nombre de difficultés, des pollutions, et atteint les ressources. Mais alors dans d'autres régions du monde, comme l'Amérique latine, il y a des possibilités d'extension des surfaces, et donc on n'a pas besoin d'accroître beaucoup les rendements. Et dans d'autres régions, comme l'Asie, où il y a beaucoup de populations, et où on a saturé l'usage de l'espace, eh bien il va falloir accroître les rendements. Donc l'équation est un peu différente d'une région à l'autre. Nous, en Europe, nous n'avons pas tellement la possibilité d'accroître les rendements parce que nous sommes déjà à des niveaux élevés. Et dans d'autres régions, il va bien falloir accroître les rendements pour faire face à la vague démographique.
Vous parlez de gagner en surface pour l'Amérique latine. J'imagine qu'il s'agit de gagner de la surface en rasant une partie des forêts.
C'est déjà fait. Il faudrait arrêter. Et il faudrait au contraire accroître les surfaces cultivées dans des zones déjà déforestées. Parce que ces zones déforestées sont principalement vouées à l'élevage. Et une autre grande partie est vouée à la production de maïs et de soja, lesquels sont exportés de plus en plus vers l'Asie pour nourrir les animaux qui alimentent la production de viande et qui alimentent, entre autres, les maladies cardiovasculaires et l'obésité dont nous parlions tout à l'heure.
François Gros, qui a écrit en commentaire dans le rapport démographie, climat et alimentation mondiale, donc dans le groupe de lecture critique, et donc il écrit au titre de l'Académie des sciences que parmi les 3,7 milliards d'hectares de forêt, on estime qu'une partie non négligeable sera utilisée pour l'agriculture. Donc ça concerne bien sûr l'Amérique latine avec la forêt amazonienne, mais également d'autres forêts un peu partout dans le monde.
Oui, la forêt amazonienne, comme je le disais, pour produire du maïs, du soja et de la viande bovine. En Afrique forestière, un grignotage par la production de bois, par les forestiers, et puis la population qui s'accroît et qui grignote elle aussi en périphérie le grand bassin du Congo, et puis la disparition de la forêt en Asie du Sud-Est pour installer du palmier à huile principalement. Donc ce sont trois raisons différentes, mais qui aboutissent dans tous les cas à une réduction des surfaces forestières et donc à une altération du fonctionnement des écosystèmes et du climat local.
Donc en gros, se trouve un choix qui est le suivant, c'est-à-dire choisir entre des cultures intensives ou alors le développement sur la surface de ces cultures.
Oui, je dirais choisir entre l'accroissement des rendements parce qu'il y a plusieurs façons d'être intensif. On peut être intensif classiquement en utilisant des produits chimiques et on peut être intensif en utilisant plutôt des principes d'écologie scientifique. Mais l'équation se joue entre l'accroissement des surfaces et l'accroissement des rendements, et il faut surtout accroître les rendements parce que les surfaces, elles ne sont pas extensibles.
Donc l'accroissement des rendements, ça passe par, j'imagine bien sûr, l'amélioration des semences. Est-ce que l'amélioration des semences est synonyme d'OGM, Michel Griffon ?
Non, c'est synonyme purement et simplement d'amélioration du contenu génétique. Et il y a bien sûr la possibilité d'utiliser des OGM, mais il y a des sélections assistées qui sont beaucoup plus rapides qu'autrefois et qui permettent d'obtenir des résultats tout aussi intéressants. Alors la voie OGM présente l'intérêt d'être extrêmement rapide, mais elle n'est pas acceptée, par exemple, dans le continent européen. Elle fait largement débat à l'échelle internationale.
Henri Léridon, il y a un autre phénomène qui se développe, c'est l'achat de terrains à d'autres pays. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Donc un certain nombre de pays qui prévoient qu'ils devront importer de plus en plus de produits agricoles dans les années et les décennies à venir, tentent de prendre les devants en acquérant eux-mêmes des terres dans des régions où elles sont supposées être actuellement peu exploitées et donc ils se proposent de mettre en culture de façon plus efficace. En théorie, le schéma peut paraître extrêmement attractif. En effet, si à un endroit donné, pour des raisons diverses, un terrain n'est pas très bien mis en culture et qu'un investisseur, disons, se propose d'en tirer un meilleur profit, ça peut sembler être bénéfique. Mais il faut évidemment voir dans quelles conditions les choses se passent. Est-ce que tout est réexporté vers le pays qui a acquis ou loué le terrain en question ? Et est-ce que les populations qui existaient quand même généralement localement sont associées ou exclues du processus ? Donc il y a des raisons pour le moment d'être assez inquiet de la façon dont les choses se passent. Encore une fois, on pourrait imaginer un scénario plutôt optimiste dans lequel on aboutirait à une augmentation globale de la production agricole au bénéfice de tout le monde, mais aussi un scénario pessimiste dans lequel, une fois de plus, les pays qui actuellement ont les plus faibles productivités se trouveraient marginalisés sur leurs propres terres.
Oui, parce que j'imagine que les terres qui sont vendues sont les terres de pays en voie de développement. J'imagine que ce ne sont pas forcément
voilà,
des pays
industrialisés. Voilà, c'est Madagascar... D'autres pays d'Afrique.
L'Afrique centrale.
L'Afrique centrale, principalement, oui. Et pour reprendre un élément un peu plus positif par rapport à la question de l'augmentation des rendements, il faut quand même avoir en mémoire que dans certaines régions, notamment en Afrique, les rendements actuels sont extrêmement faibles. Alors, il y a beaucoup de raisons à cela et on ne peut pas espérer obtenir des rendements du type de ceux de la bourse, bien entendu, mais il y a quand même de la marge avec des moyens, comme l'a dit Michel Griffon, qui ne sont pas forcément ni des produits OGM, ni de l'intensif avec des intrants très, très importants. Donc, heureusement, il y a quand même de la marge de progression qui passera certainement par une formation à des techniques nouvelles, adaptées localement, ce qui veut dire pas des grands programmes mondiaux, mais des choses qui vraiment tire profit des possibilités et des connaissances locales pour améliorer les productivités. Mais là, je crois qu'il y a une réserve de productivité importante.
Mais alors, dans ce contexte de pression sur les besoins alimentaires, en tout cas sur les besoins alimentaires à venir, est-ce que l'agriculture biologique aura encore, d'ici 2050, une raison d'être, puisque ses rendements sont 40% inférieurs par rapport à l'agriculture intensive ? Michel Griffon.
Alors, il y a plusieurs agricultures biologiques. Il y a les grandes cultures biologiques et elles ont effectivement de la difficulté à être au rendez-vous de la productivité en termes de rendement par hectare. Mais l'agriculture biologique n'a pas dit son dernier mot. Elle a fait l'objet de peu de recherches. Et les travaux qui sont actuellement menés laissent quand même de l'espoir d'amélioration. Et puis il y a l'agriculture biologique périurbaine pour la production des fruits et légumes, qui est quand même une production de prédilection pour les urbains, parce que autant les urbains ne prêtent pas beaucoup d'attention sur les risques de pollution relative aux céréales, aux tubercules, autant sur les fruits et légumes, ils y prêtent de l'attention. Et il est plus facile de faire une agriculture, de conduire l'agriculture biologique en horticulture qu'en grande culture. Mais à mon sens, il ne faut pas dire définitivement que l'agriculture biologique est condamnée dans la contribution qu'elle peut apporter à l'amélioration des rendements.
Dans votre rapport, vous parlez d'une agriculture écologiquement intensive. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition sur ce qu'est l'agriculture écologiquement intensive ?
Pour dire les choses, parce que ce n'est pas une définition facile, pour dire les choses de façon simple, l'intensivité dépend des facteurs de production qu'on utilise. L'agriculture indienne est intensive en main-d'œuvre parce qu'on utilise beaucoup de main-d'œuvre pour produire une tonne de riz. L'agriculture européenne est intensive en chimie parce qu'il faut beaucoup d'intrants chimiques, engrais pour du phytosanitaire, beaucoup d'énergie. Alors peut-on imaginer une agriculture intensive en écologie qui utiliserait au mieux les fonctionnalités des écosystèmes, et elles sont nombreuses ces fonctionnalités, et qu'on a un petit peu oubliées, qui étaient un petit peu autrefois la base des rendements, mais le progrès de l'écologie scientifique permet d'améliorer considérablement les rendements aussi. Exemple, il y a dans la nature des réseaux qu'on appelle les réseaux trophiques, avec beaucoup d'insectes qui sont les proies d'autres insectes, qui sont leurs prédateurs, et si on fait en sorte que les insectes prédateurs soient dominants dans une petite zone, eh bien on évite les envahissements par les insectes qui sont les ravageurs des cultures. Autre exemple, si dans le cadre de la lutte contre l'effet de serre, on arrive à séquestrer plus le carbone dans le sol sous forme de matière organique, eh bien on améliore la structure des sols, on diminue le besoin de labour, on diminue le besoin d'énergie, qui est très très élevé dans le cas du labour, et on améliore la capacité de réserve en eau des sols, et on améliore la fertilité générale. Donc il y a une trentaine de solutions, de familles de solutions, qui viennent de l'écologie scientifique et qui peuvent être mises à profit pour améliorer les rendements, principalement dans les agricultures pauvres, parce que ce sont des techniques qui sont relativement peu chères.
Alors, à travers ce que vous venez de nous dire, est-ce que, du coup, à l'horizon 2050, la biodiversité sera quelque peu préservée ou au contraire, faut-il s'attendre à ce que la biodiversité soit encore un peu plus ébréchée, Henri Léridon ?
Il y a peu de chances, à mon avis, qu'elle ne soit pas ébréchée, en effet. Là aussi, on a abordé brièvement cet aspect-là. Il faut peut-être constituer parfois des réserves de biodiversité, mais il faut surtout, comme le disait Michel Griffon, essayer de reconstruire des écosystèmes qui fonctionnent convenablement. Et donc, notre préférence est plutôt pour ne pas créer des compartiments étanches entre des réserves, des sanctuaires de biodiversité, comme on avait un peu eu tendance à le faire ces dernières décennies, mais plutôt, encore une fois, faire fonctionner des systèmes avec des zones mieux protégées, mais en liaison avec des zones productives, parce qu'on ne peut pas se permettre de neutraliser non plus les territoires immenses au nom de la biodiversité à protéger.
Alors, les cultures et l'alimentation, tout ceci est bien sûr relié à l'économie et au commerce mondial. Vous écrivez dans le rapport démographie, climat et alimentation mondiale qu'il faut libéraliser le commerce mondial. Pourquoi ? Michel Griffon ?
Il faut assurer une chose à très long terme dont on a déjà parlé, qui est que l'ensemble de l'Asie va devoir importer des quantités assez phénoménales d'aliments, et l'ensemble du Maghreb et du Moyen-Orient aussi, quoiqu'en proportion moindre. Il faudra bien que le marché mondial fonctionne bien, que l'on soit pour le marché ou contre le marché, il faut qu'il soit fluide, qu'il fonctionne correctement. Donc la libéralisation est d'une part absolument nécessaire, mais je dirais le contraire de la libéralisation est aussi nécessaire dans la mesure où il ne faut pas que la libéralisation contredise la nécessité pour les agricultures qui doivent produire beaucoup plus, comme les agricultures africaines, de produire dans les quantités qui sont suffisantes pour leur propre marché, alors que pour le moment, il y a une compétition relativement directe entre la production locale et les importations. Donc la libéralisation est à manier avec des pincettes.
Et en tout cas, sur le plan financier, il faut éviter qu'elle soit une source de spéculation comme avec d'autres productions et d'autres produits. Là, je pense qu'on a franchi un cap il y a une trentaine d'années qu'il faudrait inverser maintenant de façon à mieux contrôler certains types de produits financiers qui spéculent sur la production agricole.
Alors justement, Henri Léridon, Michel Griffon, est-ce que vous êtes favorable à un contrôle des prix sur le marché mondial de certaines denrées alimentaires afin d'éviter la spéculation ? Michel Griffon.
Bon, pour limiter la spéculation, le contrôle des prix est une solution massive, extrêmement difficile à manier. Je crois surtout que ce qu'il faut, c'est que les pays qui vont connaître la plus grande croissance démographique, qui ont les courbes d'accroissement des productions les plus vulnérables, les pays principalement africains et centra-américains, il faut absolument qu'ils aient devant eux une sécurité pour les producteurs, de façon à ce qu'ils aient devant eux un boulevard, une aisance à produire qui n'ait pas de contradiction sur le marché par des importations intempestives. Il faut qu'ils regagnent la confiance de la société parce que ces agricultures, principalement africaines, ne sont pas aimées. Les politiques nationales sont généralement adverses aux intérêts des producteurs. Et il y a 2 milliards de gens pauvres sur la planète qui sont des agriculteurs, qui sont les premiers à souffrir d'un manque de production agricole. Et donc il y a un intérêt considérable pour des politiques agricoles. La libéralisation est nécessaire pour les raisons que l'on disait tout à l'heure, mais ce qui est absolument nécessaire avant tout, ce sont des politiques agricoles pour stimuler l'offre. Alors là, il y a des méthodes extrêmement variées qui dépendent de la variété des situations rencontrées.
Les stocks alimentaires, j'ai pu le lire aussi dans votre rapport, les stocks alimentaires mondiaux sont de 3 mois seulement. Est-ce que, justement, aussi pour éviter une spéculation, il serait intéressant ou pas de constituer des stocks à plus long terme, Henri Léridon ?
C'est un grand débat parmi les économistes. Le problème des stocks, c'est que ce sont des immobilisations. Ça a un coût de gestion. Et ensuite, il y a un risque avec des produits alimentaires de déperdition progressive. Donc, ce que nous préconisons plutôt, c'est de réfléchir à des stocks régionaux qui seraient plus facilement accessibles. Quelquefois, c'est vraiment même c'est un problème de stockage tout à fait local. S'il y a une grande partie de la production, parfois dans certains pays, qui est perdue très vite après la récolte, c'est généralement parce qu'il n'y a pas de conditions de stockage convenables. Donc, il y a des efforts à faire depuis le niveau le plus local jusqu'au niveau régional. Mais il est vrai qu'au plan mondial, je pense que 3 mois est un peu court quand même. Il faudrait sans doute pouvoir regonfler les stocks. Mais les économistes, en général, ils ne sont pas très favorables.
Alors, mais en même temps, les économistes sont depuis une trentaine d'années dans l'hypothèse où il faut avoir le minimum, enfin, les flux doivent être le plus fluides possible, et le minimum de stock, parce que ça coûte cher, bien sûr. Mais cette question devrait être revisitée si le changement climatique amène à des plus fortes variabilités de la production à l'échelle internationale.
Parmi les propositions qui résident dans votre rapport, vous parlez de la possibilité de créer un observatoire international des prix et de la demande, parce qu'actuellement, et ça je ne le savais pas, il n'existe pas de prévision, d'anticipation ou de coopération. Michel Griffon.
Il y a des modèles qui sont des modèles de prévision à très court terme. Il y a des modèles de projection où on prend les tendances du passé et puis on les projette sur 3 ou 4 ans. Mais ces modèles sont largement contredits par la réalité. Il y a des modèles qui offrent des scénarios de prospective à long terme, c'est-à-dire qu'on explore les futurs possibles. Mais il n'y a pas effectivement de recherche systématique et patiente sur toutes les variables de commande du système agricole et alimentaire mondial qui devraient nous permettre de nous alerter. Par exemple, nous avions l'ensemble de l'information en 2007-2008 pour imaginer qu'il pouvait y avoir une crise alimentaire mondiale et avec toutes les conséquences sociales que ça comportait. Et nous ne l'avons pas vu venir simplement parce que nous n'avons pas su organiser l'information qui pourtant était disponible.
Pour le coup, il existe quand même la FAO qui est là, qui justement peut donner des informations sur les prévisions à venir.
La FAO peut le faire si elle le souhaite, bien évidemment. Elle est un carrefour d'informations. Mais il faudrait plutôt une grande agilité à déceler les faits porteurs d'avenir plutôt que de traiter d'énormes bases de données, ce qui est toujours un petit peu contradictoire avec l'agilité intellectuelle.
Alors nous arrivons au terme de notre émission, je me tourne vers vous Henri Léridon pour peut-être faire le point sur les recommandations qui se trouvent dans votre rapport démographie, climat et alimentation mondiale. Quelles seraient les principales recommandations ?
D'abord, c'est une spécificité du rapport que de faire des recommandations, parce que jusqu'ici, il y avait eu pas mal de rapports anticipant la situation alimentaire possible à 2050, mais avec généralement peu de recommandations. Ben écoutez, on les a balayés quand même, je crois, en grande partie. On voit qu'il faut jouer sur tous les registres. Peut-être l'une des principales conclusions, la situation est difficile. Donc, il y a des risques constants. Encore une fois, on le voit déjà aujourd'hui. Ils vont plutôt s'aggraver avec une dégradation climatique probable, avec la croissance démographique, bien sûr. Donc, il faut absolument jouer sur tous les registres. Donc, il y a des problèmes économiques, macroéconomiques qu'on vient d'évoquer. Sans doute qu'il faut être attentif à la situation des marchés de diverses façons. Il faut une volonté politique de vérifier ce qui se passe concrètement au jour le jour sur les marchés. Il faut améliorer la production, pas n'importe comment, donc en contrôlant ce qui peut être fait en matière d'augmentation des surfaces pour ne pas prendre des risques de déforestation excessifs. Il faut donc contrôler la façon dont la productivité augmente, mais il y a des réserves dans un certain nombre de pays, on l'a dit aussi. Il faut modifier les comportements, on avait commencé par cela, parce que c'est une autre réserve, encore une fois, possible en réduisant la consommation et notamment la consommation de viande, puisque la transformation de protéines végétales en animales n'est pas d'un rendement excellent. Et donc, on a tout à fait intérêt à consommer les calories végétales dans la mesure où on le peut. Donc, il y a des modifications de comportement à induire progressivement. Et ça, il faut une volonté politique et reliée par les systèmes d'éducation et les médias au jour le jour. Voilà, je ne sais pas si j'oublie encore des secteurs... Mais il y a un vaste chantier. Donc, notre message, il est à la fois optimiste parce que, vous l'avez dit, les experts pensent que globalement, on est capable de nourrir 9 milliards d'habitants dans quelques décennies. Mais il y a un prix. Encore une fois, le chemin est difficile et il faudra être très vigilant tout au long du parcours.
Dernière question, Aurélie Ridon. Est-ce que vous pensez qu'on arrive à un pic de population, 9,2 milliards? Ce sera vraiment le pic avant de redescendre?
Alors, à l'époque, on avait fait notre rapport, les projections des Nations Unies les plus courantes s'arrêtaient à 2050. Elles donnaient l'impression qu'on atterrirait doucement, si je puis dire, après les 9,2 milliards qui étaient prévus. Dans leur dernière projection, il y a maintenant une prolongation jusqu'à 2100 qui vaut ce qu'elle vaut et qui prévoirait plutôt une stabilisation à 10 milliards en 2100. C'est-à-dire qu'on serait à peu près au chiffre prévu en 2050, mais il y aurait encore une petite croissance dans les décennies qui suivent.
Une stabilisation avant.
Principalement à cause de l'Afrique, qui serait loin de la stabilisation.
Merci à tous les deux, Henri Léridon, Michel Griffon. Je rappelle le titre de ce rapport qui a été donc l'objet de cette émission. Démographie, climat et alimentation mondiale, publié chez EDP Sciences et sorti en février 2011. Merci à tous les deux d'être venus nous donner les détails de ce rapport. Merci.